Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous parlons aujourd'hui des troubles 10 qui apparaissent au cours du développement. Ces troubles qui concerneraient un enfant sur 20. La dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie et la dyslexie, certainement le trouble 10 le plus connu du grand public. Nombreux sont celles et ceux qui, dans leur entourage, en classe, en famille, ont connu ou côtoyé un enfant dyslexique. Un élève pour qui, un jour, le quotidien change. Aller à l'école devient beaucoup plus difficile. À la veille de la 11e journée des 10 dans Priorité Santé, nous allons tenter de comprendre comment ces troubles se manifestent et quelles stratégies envisager pour accompagner et surtout pour aider l'enfant. Accompagnement qui implique des acteurs multiples, l'enfant bien sûr, ses parents, mais aussi le milieu scolaire, les médecins et les praticiens. Avec nous en studio, docteur Caroline Huron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chargée de recherche à l'INSERM, présidente de l'association Cartable Fantastique, et vous avez signé l'ouvrage « L'enfant dyspraxique, mieux l'aider à la maison et à l'école », publié aux éditions Odile Jacob. Également avec nous Hervé Glazel, bonjour. Vous êtes neuropsychologue spécialisé dans le développement de l'enfant et de l'adolescent et des troubles d'apprentissage. Vous avez fondé le CEREN, réseau d'écoles accueillant des enfants 10 à Paris. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons au Togo Emmanuel Etongnon, orthophoniste à Lomé, président de la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. Et puis pour conclure cette édition de Priorité Santé, nous parlerons de la 11e édition du Pasteur Don, dont RFI est partenaire. Opération chaque année, un appel aux dons pour le financement des activités de l'Institut Pasteur. Alors une cinquantaine de minutes pour évoquer ces troubles complexes, finalement souvent méconnus du grand public, ça ne va pas forcément être simple. D'abord une première indication, Hervé Glazel, une première tentative de définition de ces troubles cognitifs, troubles des apprentissages. Les 10, ce ne sont pas des maladies à proprement parler.
Oui, tout à fait. Il faut essayer de pas pathologiser ou trop médicaliser cette question. Il n'empêche que c'est bien un trouble. Hein. C'est donc une difficulté spécifique chez des enfants d'intelligence standard, mais qui vont être gênés par un certain type de traitement de l'information. Donc ce sont des enfants qui peuvent avoir un problème au niveau du langage oral, de l'acquisition du langage écrit, l'écriture, le sens du nombre, mais aussi il faut rajouter les troubles de l'attention, les troubles de la mémoire ou même de la cognition sociale, c'est-à-dire de la compréhension des signaux sociaux.
Et docteur Caroline Huron, dans un certain nombre de cas, quand les gens ne sont pas informés, qu'ils observent un enfant qui justement est touché par l'un de ces troubles, eh bien ils se disent « fais un effort et tout va s'arranger ».
Oui, parce que ce sont des enfants qui sont gênés sur un outil en particulier, hein, par exemple dans le cas de la dyspraxie, le geste, donc l'écriture, mais qui par ailleurs sont à l'oral extrêmement vifs. Et donc on a un petit peu ce décalage, donne l'impression qu'en fait ils ne font pas d'efforts dans la tâche pour laquelle ils sont déficitaires. Et c'est bien sûr une erreur, parce qu'il faut au contraire, c'est l'inverse qui se passe. Ils font beaucoup plus d'efforts que les autres pour écrire les lettres, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ces efforts.
Alors on l'a bien compris, hein, il y a plusieurs catégories de 10, il y a plusieurs, pas des sens, mais il y a plusieurs aptitudes qui sont touchées. Est-ce qu'on peut un petit peu justement brosser ces différents troubles en fonction de leurs appellations? Là, je disais tout à l'heure la dyslexie, sans aucun doute le 10 le plus connu.
Ben, la dyslexie, l'outil qui est touché, c'est clairement la lecture. Hein. Ce sont des enfants qui ont des difficultés à acquérir la lecture, à automatiser la lecture, et qui donc vont être en difficulté dès qu'il faudra lire, c'est-à-dire à peu près tout le temps à l'école quand même. La dysphasie, ce sera un trouble du langage, mais Hervé, tu es beaucoup plus compétent pour moi, donc tu peux peut-être répondre là-dessus. Et la dyspraxie, c'est vraiment le geste. En général, le mouvement, le geste qui permet d'écrire, de manger, de s'habiller, et qui donc est sollicité toute la journée, y compris les mouvements des yeux pour lire.
Hervé Glazel, justement, la dysphasie, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, la dysphasie, en fait, est un trouble un peu particulier, puisque la lecture ou l'écriture, voire même le calcul, ce sont des apprentissages culturels. En revanche, en fait, la dysphasie, ça touche en fait le langage oral. Or, chaque petit être humain vient au monde équipé de la possibilité de s'exprimer et de comprendre le langage. Et donc, la dysphasie, c'est un trouble spécifique de l'émergence du langage à l'oral. Et ça peut, il peut y avoir deux versants, des difficultés à s'exprimer, ce sont celles qui sont les dysphasies les plus visibles ou les plus frappantes, des problèmes d'articulation, de syntaxe, et puis des problèmes en fait qui sont plus discrets, mais qui peuvent être très gênants, de la compréhension du langage oral, et donc des enfants pertinents, mais qui comprennent mal le discours.
Est-ce que ça veut dire justement, puisque tout cela se passe en fonction de l'acquisition de ces compétences, qu'il y a un âge pour chacune des 10, enfin un âge un moment à partir duquel on dit là, il y a vraiment un problème sur ce point particulier.
Oui, puisque finalement le développement de l'enfant est un développement très rythmé, avec une chronologie, si vous voulez, bien organisée, avec une variation en fait de la norme. Il est très important aussi là de faire attention au fait que il peut y avoir une variation, une différence entre les enfants, mais il n'en reste pas moins qu'un enfant qui parle peu, qui parle mal à 3 ans, en fait, c'est un enfant qui va commencer à nous interroger autour du langage oral. Il faudra peut-être attendre 4 ans après une année de scolarité pour pouvoir éventuellement poser cette question de manière plus sérieuse et poser un diagnostic. Les dyspraxies, Caroline pourra en fait élaborer dès la maternelle, qui est un moment en fait clé où on va manipuler, dessiner, faire toutes sortes de gestes. Effectivement, ça peut déjà être très évocateur, mais pour tout ce qui est les apprentissages culturels, il faut être patient parce qu'on ne peut pas parler de dyslexie avant d'avoir été exposé à la lecture. Donc c'est 6 ans ou 7 ans.
Docteur Caroline Huron, dans votre livre « L'enfant dyspraxique » qui propose justement une compréhension globale de ce trouble très particulier, vous faites partager l'expertise du médecin, l'expérience aussi de mère que vous êtes, puisque votre fille a été diagnostiquée dyspraxique. Est-ce que ça a changé votre vision de médecin sur l'approche justement du trouble ?
Alors, ça l'a pas changé, ça l'a révolutionné, puisque j'avais beau être médecin, je ne connaissais pas la dyspraxie, j'en avais jamais entendu parler. J'ai fait des études de médecine classique et on ne m'a pas parlé des troubles 10 dans mes études de médecine. Donc, mon premier réflexe à l'époque, ça a été de chercher de la littérature qui était assez inexistante ou alors extrêmement technique. Voilà. Après, le constat avec ça, c'est que ça m'a été effectivement utile d'être à la fois médecin, mais aussi beaucoup chercheur en sciences cognitives et peut-être aussi un peu psychiatre, parce que je voyais chez ma fille des impossibilités. C'est-à-dire qu'à certains moments, mon premier réflexe en tant que parent, c'était de dire, enfin, quand même, là, tu te fiches de moi, fais un petit effort. Et mon second réflexe, c'était de me dire, attends, là, en fait, elle n'y arrive pas. Tu penses qu'elle veut pas, parce que c'est comme ça qu'on est éduqué en France. Quand un enfant ne fait pas, on pense qu'il ne veut pas. Et en pratique, elle ne peut pas. Voilà. Donc, je me suis trompée, évidemment, un certain nombre de fois, comme tous les parents. Je l'ai disputée pour des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Mais vraiment, à partir de là, j'ai regardé tous les enfants un peu différemment. C'est-à-dire, quand ils refusent de faire quelque chose, est-ce que vraiment ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire?
Alors, un témoignage, tout de suite, dans Priorité Santé. Celui de Nicolas, il est âgé de 42 ans. Il a dû attendre l'âge de 25 ans pour être diagnostiqué dyspraxique. Et ça s'est passé à sa demande.
Au niveau du parcours scolaire, les notes complètement inégales. Tout ce qui est géométrie, c'était difficile. Et mes profs ne comprenaient pas pourquoi je pouvais avoir de telles variations de notes. Ça allait de 16 à 1. Enfin, on me disait, mais tu travailles pas, t'as rien fait. Tu vois, quand tu veux. Non, c'est pas quand je veux. Ça marche ou ça marche pas. Il y a des moments où c'est assez déstabilisant, en fait. Ah, super, génial, ça marchait. Et puis, je refais la même chose quelques fois après. C'est comme si je le faisais la première fois.
En dehors de l'école, quels étaient les signes de la dyspraxie aussi ?
Je me cognais de partout. Bon, il faut voir, j'ai un trouble de la coagulation, donc évidemment, mes parents, ils étaient en transe parce que je me cognais pour un rien. Ma motricité fine dès ma plus tendre enfance était vraiment mauvaise. Moi, j'ai vu par exemple ma marraine faire des gâteaux à ses enfants, ce genre de choses. Ou moi, c'était pas possible parce que j'étais trop maladroit. Et puis à côté de ça, comme il y avait un risque de complications en lien avec les problèmes de coagulation. Il y a des choses qui ont été complètement mises à distance de moi. Ce qui a pu créer des décalages, des ressentis décalés par rapport à mes camarades. Mon adolescence a été assez dure aussi. pas d'amis, pas de sortie, enfin bref. Parce que par exemple, lorsqu'on était en éducation physique, qu'il fallait choisir les équipes pour faire du sport, personne ne voulait de moi. Puis en classe, je passais pour un faillot parce que dès que le prof me posait une question, c'est youhou, je veux participer. Disons que j'essayais de coller au plus près des adultes parce que j'étais pas compris par mes congénères.
Comment est-ce que vous avez appris que vous étiez dyspraxique?
J'ai appris que j'étais dyspraxique sur ma demande à l'âge de 25 ans. Il y avait une maladresse que je trouvais anormale. Par exemple, bon, j'ai commencé à faire des petits boulots, du tripostal quand j'étais plus jeune, et j'étais pas assez rapide. On avait beau me répéter ce qu'il fallait que je fasse 10 fois, ça rentrait pas. J'avais l'impression d'être complètement idiot, en fait. Et ce qui fait que je me suis dit, bon, il y a un petit souci, il y a des problèmes de coordination, j'ai des problèmes de concentration, donc j'ai demandé un bilan neuropsy. Et là, j'ai eu un diagnostic de dyspraxie visuospatiale. La dyspraxie, c'est quelque chose qui me pose un vrai problème. Il y a des jours où ça m'exaspère. Par exemple, dans les tâches domestiques, il y a des choses que je vois pas. Par exemple, je vais faire une salade de tomates. Si je suis en forme, je vais être à peu près attentif. Si je ne suis pas en forme, mais je vais en foutre partout. Et le problème, c'est que je ne vois même pas que j'en ai foutu partout. Et je ne me représente pas le fait que, par exemple, un simple grain de tomate puisse se ficher entre deux bols ou deux verres. Et je vais spontanément nettoyer la surface qui est devant moi, mais je ne vais pas faire le lien avec l'extension de la surface. Je ne vais pas avoir une approche de la surface qui est globale, en fait.
Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous rendez compte que vous en aviez mis partout et que vous ne l'aviez même pas remarqué?
En fait, c'est mon ami qui me le dit après coup et qui répare les dégâts.
Et la personne avec qui vous vivez?
Ouais, et là, c'est pénible. Ça crée une sorte de frustration constante, une exaspération, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et chez moi, c'est très balancé. C'est-à-dire que quand j'arrive à faire quelque chose, youhou, c'est quasiment l'euphorie. Et puis dès que je n'y arrive pas du premier coup, c'est, ah mon Dieu, la catastrophe, le drame, je n'y arriverai jamais. Voilà, bref.
Depuis que la dyspraxie a été dépistée, comment est-ce que vous êtes accompagné, que ce soit médicalement ou psychologiquement?
Alors psychologiquement, j'ai un suivi par un psychologue une fois par semaine, parce que j'ai besoin de construire ma vie et d'avancer. Je me suis mise tout simplement en tête de m'hyperstimuler continuellement où je l'ai appris. Je fais par exemple de la marche nordique. Alors j'arrive à marcher normalement, sans aucune difficulté, mais dès qu'il y a eu la variable bâton qui a été ajoutée, je me prenais le chou à séquencer chaque mouvement pour essayer de l'acquérir. Je n'arrivais pas à le reproduire. Disons que je travaille sur ma dyspraxie d'une manière fréquente et quotidienne, en m'échinant quand même à travailler même des choses qui me mettent en échec. Il y aura bien des automatismes qui finiront par s'ancrer. Ce qui arrive, mais c'est laborieux, quoi.
Docteur Caroline Huron, on l'entend à travers ce témoignage recueilli par Philippine Lebret. Cette dyspraxie a entamé, il utilise le terme, hein, l'estime de soi de Nicolas, et on l'apprend en lisant votre livre, c'est un facteur aggravant justement, cette violence qui est faite à son estime.
Alors, je ne sais pas si c'est un facteur aggravant, mais en tout cas c'est fréquent.
Déstabilisant.
Alors c'est quand même très souvent une estime de soi qui est détériorée en termes scolaire, c'est-à-dire c'est au niveau de l'école vraiment qu'il y a un problème, parce que effectivement, il le dit très bien, il y a une vraie fluctuation des performances. Ce sont des enfants qui à un moment vont faire très bien les A parce qu'ils sont en forme, hein, il a beaucoup utilisé ce terme-là, et puis ben après ils sont fatigués, donc ils ne sont plus en forme et les A ils peuvent plus les écrire. Voilà. Et donc ce qu'on leur renvoie à ce moment-là, c'est regarde, tu fais vraiment pas d'effort. Et donc l'estime de soi à force de ce type de retour extrêmement négatif décline. Pour autant, si à la maison les parents ont bien compris les difficultés de l'enfant, c'est-à-dire qu'il se fait pas disputer parce qu'il fait ses lacets trop lentement, par exemple, l'estime de soi à la maison, elle peut être préservée. Donc il y a un vrai rôle des parents à ce moment-là, et on observe un décalage entre l'estime de soi scolaire et l'estime de soi en général. Voilà. Alors quand j'entendais votre auditeur, j'avais envie de lui dire d'être un petit peu plus gentil avec lui-même et de prendre conscience qu'effectivement, il y a des choses qui seront toujours compliquées. Par exemple, il y a des adultes qui ne se repèrent pas dans l'espace. Et ils ne se repéreront jamais dans l'espace. C'est comme ça. Quand ils vont d'un endroit à l'autre, ils se perdent. On a la chance d'être en 2017. Il y a plein d'outils pour permettre de compenser ça, et il faut accepter que ben on compense. Donc à chaque fois que c'est possible, on compense, et peut-être que le jour où effectivement il est trop fatigué pour couper des tomates, et ben il commande une pizza. Voilà. Et puis le jour où il sera moins fatigué, ben il coupera ses tomates. C'est un petit peu comme ça qu'il faut essayer de gérer les choses en ne s'imposant pas à soi-même des obligations qui au fond sont des obligations sociales qui sont pas si indispensables que ça.
Docteur Caroline Huron nous expliquait Hervé Glazel comment l'école à un certain moment peut dévaloriser l'enfant 10. C'est pour ça que vous avez fondé ce réseau Sérène, ce réseau d'école. Qu'est-ce qu'il y a de différent pour un enfant qui fréquente une école de ce réseau?
Oui, Caroline a complètement raison. C'est-à-dire qu'en fait, à la maison, les parents peuvent effectivement devenir conscients et aider leur enfant. À l'école, il est extrêmement courant que ces enfants 10 soient dans une véritable souffrance scolaire, hein, parce qu'effectivement, ils ne sont pas reconnus. On ne comprend pas en fait ce qu'ils vivent. Il y a beaucoup de pression de la part des enseignants et de la part de leurs pères, hein, de leurs camarades. Et les enfants sont extrêmement normatifs, ont très envie d'être comme les autres. Donc l'idée de ces écoles était effectivement de chercher à régler cette question-là, mais ce en fait dans une logique de parcours de l'enfant. Hein. Chaque enfant a tout à fait sa place dans une école standard. Cependant, pour les troubles cognitifs de l'enfant, il nous paraissait utile de proposer dans cette logique de parcours un sas, une respiration de la scolarité de l'enfant pendant 2 à 4 ans, de façon à ce qu'il puisse s'approprier des outils qui lui permettront ultérieurement d'être indépendant dans une classe standard. Donc, si vous voulez, il y a quelques aménagements de fond, hein, des petites classes de 12 à 15 élèves, des professeurs formés, la présence sur place des professionnels paramédicaux et une logique d'accessibilité scolaire avec des supports pédagogiques adaptés et un certain nombre d'outils de technologie, typiquement un ordinateur et une trousse à outils logiciels qui permettra à cet enfant à la fois de contourner son trouble et de pouvoir se projeter dans l'avenir.
Alors, si vous le voulez bien, tout de suite, un autre témoignage là, c'est une auditrice, elle nous appelle du Sénégal, de Dakar, c'est Sounougal. Sounougal, bonjour.
Bonjour Claire.
Caroline, on vous écoute tout de suite.
Ah Caroline, excusez-moi, bonjour Caroline.
On vous écoute Sounougal.
Alors, moi j'aimerais témoigner par rapport au parcours de combattant que j'ai eu à faire. Déjà, c'était par rapport à moi-même qui ai accepté que mon fils a des difficultés. Ça a été très dur. Il apprenait pas ses leçons parce qu'il les écrivait pas entièrement. Quand il les écrivait, j'étais obligée de les reprendre à la maison avec lui, c'est-à-dire les réécrire pour qu'il puisse les réapprendre. Quand il lisait pas correctement. Et donc pour moi, c'était de la paresse de sa part, c'était qu'il voulait pas travailler. Donc c'était très dur au début. Alors finalement, quelqu'un a réussi à me convaincre d'aller faire un bilan. Et donc, on a pu trouver une orthophoniste à Dakar. On a été faire le bilan. Et après le bilan, il a fallu attendre pratiquement 2 ans pour avoir une place pour qu'il puisse commencer à faire ses séances d'orthophonie. Avant, il était dans le système sénégalais. J'ai été obligée de l'enlever du système sénégalais pour le mettre dans le système français. Parce que le système sénégalais ne reconnaît pas la dyslexie, et donc il n'y a pas d'aménagement pour l'enfant. Et bon, ça me coûte très cher maintenant, mais je reconnais que c'est la meilleure chose pour les UA faire, puisqu'on a pu réconcilier l'enfant, on va dire, avec l'école, puisqu'il ne fait plus l'objet de moqueries en classe, il n'a plus peur de demander « j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez attendre que je termine de recopier ma leçon ?» Et donc, il est en 5e cette année. On a eu à faire notre entretien de PAP en début d'année. Il y a certains profs qui suivent le PAP.
C'est le projet d'accompagnement personnalisé.
Exactement, voilà, exactement.
On l'a
parce qu'on est dans un programme français.
Sounougal, on va justement revenir, on va commenter ce témoignage dans la deuxième partie de Priorité Santé. On va se retrouver dans 3 minutes, juste après le point d'actualité. Vous restez avec nous, docteur Caroline Huron, Hervé Glazel. Après les informations, hein, on va parler à nouveau des 10 à la veille de la 11e journée nationale qui mobilise les parents membres des associations de la Fédération des 10 comme les professionnels. On se retrouve tout de suite.
Thank you. Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette deuxième partie de Priorité Santé consacrée au 10, à la veille de la journée nationale dédiée à ces troubles qui apparaissent au cours du développement de l'enfant et peuvent avoir d'importantes répercussions sur sa vie sociale, scolaire, professionnelle plus tard. Toujours avec nous pour en parler en studio, docteur Caroline Huron, psychiatre chargée de recherche à l'INSERM, présidente de l'association Le Cartap Fantastique, et Hervé Glazel, neuropsychologue spécialisé dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, fondateur du réseau des École sereine. Juste avant l'interruption pour les informations, nous étions en ligne avec Sounougal à Dakar, cette maman d'un garçon dyslexique qui est maintenant en cinquième au collège. Et on a vu, docteur Caroline Huron, véritable parcours du combattant et aussi énorme investissement de cette maman pour que son enfant puisse tout simplement continuer à aller à l'école.
Oui, alors ce qu'elle raconte qui est vrai là-bas, mais c'est un peu universel, elle décrit plusieurs étapes. Elle décrit d'abord la solitude, souvent des mamans, malheureusement, parce que c'est souvent elles qui sont en première ligne là-dessus, quand elle comprend, qu'elle admet en fait qu'il y a des difficultés avec son enfant. Donc ça, c'est déjà une première étape qui est pas évidente, à laquelle il faut faire face. Et ensuite, il va falloir trouver les professionnels qui vont pouvoir poser un diagnostic face à ces difficultés qui sont réelles et constatées, mais uniquement par la maman. Et puis après, ce que montre la recherche, c'est que en fait, le parcours scolaire dépend clairement de l'investissement parental. Ce sont les parents qui vont permettre aux enfants d'abord de trouver l'école qui correspond le mieux, ce qu'elle a fait très bien puisqu'elle a changé de système scolaire, ce qui est quand même pas anodin puisque le coût est énorme pour elle en termes financiers, et l'accompagnement qu'elle va être obligée de mettre en place. En France, on a ce type de choses aussi avec beaucoup de mamans qui arrêtent de travailler ou qui travaillent à temps partiel. Donc l'investissement des mères dans la scolarité est un des facteurs de réussite de ces enfants-là, ce qui pose tout un tas de problèmes dans notre vision de la société et de l'école.
On a entendu à plusieurs reprises le terme projet d'accompagnement personnalisé. Est-ce que tous les enfants 10, Hervé Glazel, ont justement ce PAP ?
Alors, si vous voulez, il y a effectivement plusieurs dispositifs. Ce PAP a maintenant 2 ans, a cherché effectivement à alléger la procédure de reconnaissance de la difficulté de l'enfant, et est initié en principe par l'école. Et donc, ce sont les enseignants qui sont censés repérer les difficultés de l'enfant et proposer des aménagements. Dans les faits, une fois de plus, ce sont les parents qui constatent que leur enfant a des besoins, va aller au contact de l'école et vont négocier aussi bien que possible, effectivement, des aménagements qui vont permettre d'alléger un certain nombre d'éléments de la scolarité de l'enfant. On va pas changer les contenus des apprentissages, mais on va proposer des aménagements, je dirais techniques, pour que l'enfant qui a du mal à lire soit pas constamment perturbé par cette difficulté-là, s'il a du mal à écrire, qu'il ne soit pas constamment dans son trouble, mais qu'il puisse atteindre les contenus des apprentissages sans être gêné par son trouble.
Alors on va changer cette organisation avec Glazel, et puis on va aussi parfois faire appel quand c'est possible à des praticiens, des spécialistes. On entendait justement avec le témoignage de tout à l'heure l'intervention d'un orthophoniste. Quel type de spécialités sont justement mobilisées pour cet accompagnement ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a toujours 2 voies d'aide pour les enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages. Il y a d'abord en fait cette stratégie de contournement, éviter que l'enfant soit constamment confronté à son trouble. Mais évidemment, en fait, on va stimuler aussi l'enfant. On ne va pas simplement attendre que son développement lui permette de corriger partiellement son trouble. Donc, il est important parallèlement de proposer une approche donc de stimulation et de bien choisir le professionnel. C'est pour ça que la démarche diagnostique est clé pour pouvoir proposer à partir d'un bilan fin les professionnels qui correspondront. Donc l'orthophonie autour du langage oral ou du langage écrit, donc pour les dyslexies ou les dysphasies, les ergothérapeutes ou les psychomotriciens pour tout ce qui peut être autour de la motricité ou du geste, les orthoptistes quand il existe en fait un trouble du regard et qui peut avoir un impact fort par exemple sur la qualité de la lecture. Voilà, il peut y avoir évidemment en fait d'autres types de praticiens, un soutien psychologique, un apport en fait d'un psychiatre s'il y a un trouble de l'attention associé. Voilà, il y a toute une série effectivement d'experts qui peuvent aider l'enfant par la stimulation.
Hervé Glazel, fondateur donc de ces écoles différentes, le réseau CEREN. Vous, docteur Caroline Huron, une autre approche complémentaire, différente, c'est ce site web que vous avez fondé, le Cartable Fantastique. C'est un véritable outil aussi bien pour les établissements scolaires que pour les parents.
Oui, le Cartable Fantastique, donc c'est une démarche qui propose à la fois des informations destinées aux parents et aux enseignants sur qu'est-ce que c'est que la dyspraxie et en quoi ça impacte la scolarité de l'enfant, comment on peut contourner les difficultés, et qui aussi développe un certain nombre de ressources. Il y a en particulier un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale avec lequel on a créé une banque d'exercices numériques en étude de la langue, les fantastiques exercices pour les enfants dyspraxiques, en sachant que il y a les mêmes exercices pour les enfants qui n'ont pas ce type de trouble et que donc tout le monde peut travailler en classe, les enfants dyspraxiques sur leur ordinateur et les autres élèves avec leur papier et leur crayon sur les mêmes exercices.
Alors, vous restez avec nous, on reparlera justement de cet outil assez étonnant, très complet, le Cartable Fantastique. On va tout de suite prendre la direction du Togo.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est donc en ligne de Lomé que l'on retrouve Emmanuel Etonnion. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes orthophoniste, président de la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. Est-ce que cela fait longtemps qu'il y a ces praticiens, ces orthophonistes au Togo?
Oui, bon, ça fait relativement longtemps. C'est depuis 2006 que les premiers orthophonistes togolais sont sortis. Et il y avait 10 orthophonistes togolais qui ont été formés à l'école d'orthophonie de Lomé.
Et combien êtes-vous aujourd'hui d'orthophonistes au Togo?
Au Togo, nous sommes autour de 45 orthophonistes.
Est-ce que c'est particulièrement important pour l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que c'est un petit peu une exception ou est-ce qu'il y a d'autres pays, je pense au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire, où on compte aussi un nombre assez important de praticiens?
D'abord, c'est au Togo qui a la seule école de formation des orthophonistes en Afrique francophone subsaharienne. Donc, le Togo a la chance d'avoir plus d'orthophonistes qui sont formés. Et il y a pas mal d'orthophonistes béninois qui sont aussi formés. Mais il y a très peu d'orthophonistes dans les autres pays francophones en Afrique subsaharienne.
Comment se passe la consultation? De qui vient l'initiative dans la plupart des cas? Ce sont les parents ou est-ce qu'il y a des enseignants qui sont particulièrement sensibilisés?
Pour les enfants qui ont des troubles du langage oral, ce sont des troubles très visibles. Donc un enfant qui ne parle pas, le parent s'en rend compte très rapidement et peut demander une consultation en orthophonie. En revanche, pour les troubles du langage écrit, la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, on a très peu de demandes venant des parents. Habituellement, ce sont les enseignants qui ont été sensibilisés et formés qui envoient les élèves présentant ces difficultés vers nous. Donc, je peux dire qu'au niveau des troubles du langage écrit, c'est encore très peu connu en Afrique.
Et est-ce que vous
parce que ce sont des...
Oui. Pardon, est-ce que vous vous basez sur des tests particuliers pour établir vos bilans quand un enfant, justement, sur l'écriture, vient sur la recommandation de son enseignant?
Oui, nous nous basons sur les tests étalonnés en France parce que notre formation a été assurée en partie par les orthophonistes françaises. Donc, ce sont ces tests que nous utilisons. Mais il y a certains de ces textes qui ne sont pas adaptés à la réalité socioculturelle et linguistique de nos pays africains. Donc actuellement, nous sommes en train de réfléchir pour avoir des tests propres à nos réalités socioculturelles et linguistiques. Et c'est pour cela même que la fédération a été créée. Et l'année prochaine, nous avons un grand congrès sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages pour réfléchir sur les méthodes à adopter, les bilans à adapter et ce qu'il faut faire pour faire connaître ces troubles au niveau des décideurs. Parce que les enfants qui ont des troubles comme la dyslexie, ils n'ont pas de temps supplémentaire Alors que c'est des enfants qui ont des difficultés réelles, il faut leur donner des temps supplémentaires pour les examens, tout ça. Mais ce n'est pas encore évident, parce que ce sont des troubles qui ne sont pas encore connus.
Alors, une méconnaissance qui peut provoquer, bien sûr, de la confusion avec, on en parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, un ressenti très douloureux pour certains enfants, pour leur famille aussi, quand on dit à un enfant qu'il ne progresse pas, finalement, parce qu'il ne veut pas travailler, alors que ce n'est pas du tout la réalité. C'est de la même chose au Togo, dans les écoles togolaises?
Oui, c'est la même chose. Lorsqu'un enfant n'apprend et n'arrive pas à lire, on pense que c'est un enfant qui ne veut pas travailler, c'est un enfant qui n'apprend pas. Et il y a aussi un phénomène de cercle vicieux. Plus l'enfant n'arrive pas à lire, il ne peut pas apprendre, parce qu'il faut lire pour accéder à ce qu'on lit. Donc un enfant qui est bloqué au niveau de la lecture, du coup, dans tous les apprentissages, il aura des difficultés. Pas parce qu'il n'arrive pas à apprendre, mais parce qu'il n'arrive pas à lire. Donc si on lui donne des moyens, si on lui donne des moyens pour compenser ses difficultés de lecture, il pourra réussir sa scolarité comme les deux enfants. Mais il faut d'abord que ses difficultés soient connues afin de pouvoir mettre en place des attitudes pour pouvoir l'aider.
Emmanuel,
donc, les parents, oui.
Oui, vous disiez tout à l'heure que vous prépariez ce congrès de la Fédération des orthophonistes. Vous nous avez aussi indiqué que finalement le Togo par rapport à d'autres pays était plutôt bien doté. Est-ce que pour autant vous avez les moyens suffisants pour exercer votre spécialité?
Par rapport à moi, je pense qu'au Togo, il y a plusieurs efforts qui ont été faits par l'État et qui a recruté la plupart des orthophonistes qui sont sortis, qui sont dans des structures hospitalières. Dans les autres pays, les orthophonistes sont plus en libéral. C'est vrai que les patients n'ont pas toujours de moyens pour venir, pour faire la prise en charge. C'est pourquoi nous faisons des sensibilisations dans les écoles, pour que les enseignants eux-mêmes puissent réagir par rapport à certains petits troubles, la méthode d'enseignement et comment est-ce qu'il faut encadrer l'enfant qui présente des difficultés au niveau du langage écrit. Je pense qu'on ne va pas attendre d'avoir tout le mois avant de commencer. Il faut commencer et l'État, en voyant ce que nous sommes en train de faire, peut venir à notre aide pour pouvoir aider ces nombreux enfants qui présentent des difficultés scolaires.
Merci beaucoup Emmanuel Etournion d'avoir été en ligne avec nous de Lomé. Je rappelle que vous êtes orthophoniste, président de la Fédération des orthophonistes d'Afrique francophone. Docteur Caroline Huron, Hervé Glazel, on évoquait tout à l'heure certaines difficultés rencontrées ici en France pour l'accompagnement des enfants. Là, on l'a entendu au Togo, c'est une autre dimension, non seulement matérielle, mais aussi culturelle. Et pourtant, il y a des outils au-delà de l'informatique, des outils qui existent. Docteur Caroline Huron, par exemple, des livres spécifiques, des caractères typographiques spécifiques. On travaille vraiment sur le matériau accessible à ces enfants dys.
Oui, j'ai envie de vous répondre d'abord que le premier outil, quand même, c'est d'essayer de ne pas rajouter il le dit très bien, d'essayer de ne pas rajouter du surhandicap au handicap qui existe déjà. C'est-à-dire de ne pas se dire, puisque cet enfant ne lit pas, eh ben, non seulement il n'arrivera pas à lire, mais en plus il n'aura pas accès au contenu des livres, ce qui est une catastrophe. Hein. Donc là, il y a tout un tas de stratégies de contournement qui consistent à lire le livre pour l'enfant, comme ça il a accès au vocabulaire, à l'introspection, au type d'écriture qu'il y a dans les livres, qui est quand même très différent de ce qu'on entend dans la vie quotidienne. On peut effectivement utiliser, alors c'est pas forcément des types de caractères, mais c'est vraiment pensé pour certains enfants dyspraxiques à écarter les lignes pour qu'ils confondent pas les lignes entre elles. Pour certains enfants dyslexiques, ça va être écarter les lettres. À chaque fois, c'est des aménagements qui vont permettre à l'enfant d'accéder au contenu du livre. Et après, il y a bien sûr les moyens technologiques. On a maintenant des iPads qui sont capables de lire des livres à haute voix. On a des logiciels qui peuvent lire des livres. Enfin, on a tout un tas d'outils qui vont permettre à cet enfant d'accéder à la culture, aux mots, sans pour autant avoir l'outil lecture qui fonctionne. Et ça me paraît tout à fait essentiel.
Et on va prendre un autre auditeur, hein. C'est Mako qui nous appelle, là encore du Togo, de Lomé. Bonjour Mako.
Oui, bonjour Caroline.
On écoute votre témoignage.
Oui, merci. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'émission, parce que faut dire que je n'avais pas toutes ces informations. Par rapport à ce trouble que ma fille a eu. Et là, c'est vraiment ce matin que je dirais que j'ai beaucoup d'informations sur la maladie.
Merci beaucoup.
Mon problème, c'est que j'ai ma fille de 12 ans qui en souffre aussi et qui vraiment a des difficultés, non seulement pour lire, mais pour faire des calculs. Pour autant, je la trouve très intelligente parce que des fois, elle te fait la lecture et quand tu lui demandes d'écrire le mot, elle n'arrive pas. Donc, c'est là où on a compris qu'elle mémorise la lecture quand on le lit. Donc, vraiment, ma question, c'est de savoir est-ce qu'il y a des pistes. Bon, j'ai suivi quand même les interventions. Est-ce que c'est des trucs qui se corrigent finalement à la longue? Parce que ça devient plus inquiétant lorsque, par exemple, en ce début de rentrée scolaire, j'ai été saisi pour prendre un engagement, signer un engagement avec l'école, comme quoi l'école va l'accompagner. Mais l'école ne va pas le présenter à un examen parce que son rendement en classe ne permet pas qu'elle aille à un examen.
Alors, Mako, je vais donner la parole dans un instant au docteur Caroline Huron. Une première chose, c'est déjà que on vient d'avoir en ligne dans la ville où vous habitez Emmanuel et Tognon. Je pense que déjà, puisque votre parcours vous a déjà conduit à voir un psychologue de l'éducation, peut-être aussi prendre contact avec cet orthophoniste. Et puis votre réponse, Caroline Huron, quand ce papa, qui a l'air donc inquiet et très intéressé par ce qui se passe pour sa fille, demande est-ce qu'on peut corriger les choses ?
J'ai envie de vous dire que c'est une réaction typique de papa au début du parcours. Hein, très souvent, les papas sont dans cette idée-là que l'objectif, ça va être de normaliser l'enfant. Les mamans, elles sont souvent un petit peu plus loin sur le chemin parce qu'elles ont bien compris qu'il allait falloir contourner. Donc, est-ce qu'on peut normaliser les difficultés de sa fille? Il faudra les caractériser quand même. Là, on ne sait pas très bien si elle est dyslexique, si elle est dyspraxique. Il y a un problème avec l'écrit, il y a un problème avec le calcul. Faudrait pouvoir les caractériser pour vraiment l'aider. Mais l'idée, ça va pas être forcément de normaliser parce que ça risque d'être très compliqué. Il y aura peut-être une petite amélioration, mais là, elle a déjà 2 années de retard. Là, l'objectif, ça va être vraiment de contourner les difficultés. Bah, si elle n'arrive pas à faire des additions, parce que 3 plus 2, ça fait jamais 5, bah, tant pis, elle prendra une calculatrice, mais il faut qu'elle puisse faire le raisonnement mathématique, par contre. Sinon, elle va rester à 3 plus 2. Idem pour l'aspect écrit. Si elle n'arrive pas à écrire, il va falloir qu'elle dicte à l'adulte, par exemple, hein, et que quelqu'un écrive à sa place. Et la lecture, il va falloir pareil, hein, pouvoir lire à sa place quand c'est nécessaire pour qu'elle puisse avancer au niveau scolaire, surtout si, comme dit son papa, elle a une intelligence qui permet d'acquérir un certain nombre de concepts. Donc c'est vraiment plutôt focalisé maintenant sur, elle doit avoir 9-10 ans cet enfant, hein, sur la compensation en fait, hein, le contournement du trouble, plutôt que sur l'idée qu'il faut absolument arriver à ce qu'elle lise, qu'elle compte et qu'elle écrive normalement.
Mako, une dernière question. Est-ce que vous avez accès au réseau Internet chez vous?
Oui.
Eh bien, sur le site de l'émission, on mettra les références du cartable fantastique, hein, le site du docteur Caroline Huron, parce que vous aurez un certain nombre non seulement d'informations sur les différents troubles, mais aussi des outils d'apprentissage pour votre fille, pour éventuellement essayer de mieux l'accompagner, non pas de réparer, parce qu'il n'y a pas à réparer, mais justement de l'accompagner dans son trouble pour lui permettre d'aller plus loin. C'est important, docteur Caroline Huron, hein, cette perception qu'ont les parents, qu'ils comprennent que ce n'est pas une maladie, on ne soigne pas, mais on est avec.
Ben, c'est crucial et c'est d'autant plus important que tout le monde a envie que son enfant soit standard. Enfin, c'est humain. Enfin, tous les parents ont envie de ça. Et donc, c'est un renoncement d'accepter qu'il va falloir contourner. Et en plus, c'est quand même ce à quoi tout le monde vous pousse. C'est-à-dire que l'école pense vraiment que si on entraîne cet enfant à écrire, ça va finir par se normaliser. Donc, il faut que tout le monde admette à un moment que ben, ça va peut-être pas être aussi simple que ça. Surtout que le coût va être énorme et que peut-être on a plutôt intérêt à contourner pour permettre tout le reste. Parce que être adulte, c'est pas écrire à la main, c'est pas un objectif. Être adulte, c'est construire un projet, c'est pouvoir avoir appris plein de choses pour faire un métier. Et donc, on a absolument besoin d'avoir le projet en ligne de mire. On se rappelle qu'on est en 2017, que tous, nous tous, on tape à l'ordinateur, et que donc l'objectif, c'est certainement pas
qu'il écrive de façon fluide, par exemple.
Hervé Glazel, le mot de la fin sur cette question.
Oui, je rebondis sur ce que dit Caroline. Effectivement, la grande question, c'est de pas écraser l'enfant en fait de contraintes quand il a un trouble, et puis aussi d'apporter en fait une note d'optimisme. On ne fait jamais de pronostic avec l'enfant qui a un trouble spécifique des apprentissages, mais il va se passer plusieurs choses. L'enfant va grandir, va mûrir, la maturation cérébrale, ça va jusqu'à le jeune âge adulte. Un enfant intelligent et bientôt un adolescent, un jeune adulte pertinent, on va trouver des stratégies de contournement personnel et efficace. On aura apporté aussi en fait des outils à cet enfant et à ce futur adulte. Donc la somme en fait de ce développement et de cette maturation, de ces stratégies que l'adulte se proposera à lui-même et de ces accompagnements qu'on aura pu lui offrir, devrait normalement lui permettre de vivre une vie d'adulte pleine et entière, de réaliser l'ensemble de ses rêves, hein, et de ses projets.
Hervé Glazel, docteur Caroline Huron, merci.
Bonjour, c'est Caroline Lachowski. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont besoin de vous pour vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Avec RFI, soutenons leur combat. Demain, nous serons moins malades et nous l'aurons bien cherché. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci.
3620, service gratuit plus prix appel.
Un message du Pasteur Don, hein, cette 11e édition de l'opération d'appel au don de l'Institut Pasteur, RFI partenaire aux côtés de 37 autres médias. Pasteur Don, c'est jusqu'au 15 octobre en ligne avec nous. Jean-François Chambon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur. Quelle est la destination, à quoi sert l'argent recueilli pendant ces journées du Pasteur Don?
Alors cet argent va permettre à l'Institut Pasteur de fonctionner. La générosité du public apporte tous les ans environ un tiers du budget de l'Institut Pasteur et permet de financer plusieurs des 130 équipes qui travaillent à l'Institut Pasteur à Paris sur le campus rue du Docteur Roux, organisé en 11 départements.
Alors pour imaginer, hein, les gens aiment toujours savoir quand ils donnent de l'argent à quoi ça sert, une répartition sur, disons, 100 euros donnés à l'Institut Pasteur, ça donne quoi exactement ?
Ben sur 100 euros donnés à l'Institut Pasteur, il y a plus des trois quarts qui va directement aux activités de recherche. Et puis le dernier quart sert en partie au fonctionnement, à l'organisation de l'ensemble de l'institution. Et également aussi à refinancer les campagnes qu'on fait pour collecter des fonds.
Alors on parle d'argent, on parle aussi projet. S'il fallait nous en citer quelques-uns, Jean-François Chambon, en ce moment, sur quoi travaillent vos chercheurs ?
Alors les chercheurs de l'Institut Pasteur travaillent dans de nombreux domaines aujourd'hui, beaucoup de domaines dans le domaine des maladies infectieuses et de la lutte contre les épidémies, mais aussi maintenant dans le domaine du cancer ou dans le domaine des maladies neurologiques. Donc le champ est très vaste. Nous avons aussi une équipe qui a développé des activités très importantes dans le domaine de l'autisme, à la fois pour permettre une meilleure compréhension, connaissance, et puis en même temps prise en charge. Au-delà de ça, en ce moment, très précisément, nous avons des équipes qui sont mobilisées sur l'épidémie de peste à Madagascar. Il y a un institut Pasteur à Madagascar qui est très actif tous les ans contre la peste, mais particulièrement cette année.
Nous leur avons donné la parole mardi dernier, on était en ligne avec eux.
Était aussi appuyé par des experts de Paris qui apportent un appui technique et éventuellement de l'expertise pour certains diagnostics. Donc c'est ce genre de projet qu'on finance avec les fonds qu'on collecte dans le cadre de cette opération Pasteur Don.
Alors pour le grand public, Pasteur, c'est avant tout le vaccin. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui ?
Alors non. On mène toujours des recherches sur les vaccins, mais on ne fabrique plus de vaccins, et on ne produit plus de vaccins, on ne commercialise plus de vaccins. Cette activité de commerciale, je vais dire, autour des vaccins, elle a été abandonnée par l'Institut Pasteur depuis 1975, donc ça fait très longtemps maintenant, et elle est assurée par des industriels qui ont poursuivi avec certains des vaccins qui avaient été développés initialement par l'Institut Pasteur. Néanmoins, ce qu'on fait encore, c'est de la recherche fondamentale sur les vaccins. On a travaillé et on travaille sur des vaccins qui pourraient permettre de lutter contre l'épidémie de Zika ou l'épidémie d'Ebola, par exemple.
Alors, votre fondation, ce sont des savoirs, des laboratoires, ce sont aussi des hommes et des femmes. Cela représente combien de personnes au total ?
Alors sur le campus de Paris, il y a 2500 personnes qui travaillent régulièrement. Et puis on pourrait dire presque 3000 qui sont présentes sur le site, puisqu'on accueille de très nombreux étudiants, doctorants et post-doctorants issus de très nombreuses nationalités. Il y a 60 nationalités présentes sur le campus de l'Institut Pasteur à Paris.
Jean-François Chambon, hein, dernière question très concrète. Pour donner à l'occasion de cette campagne du Pasteur Don, comment cela se passe-t-il ?
Alors il y a plusieurs possibilités pour donner, la principale étant d'aller sur le site Pasteurdon ou sur le site de pasteur.fr où on peut rejoindre le site Pasteurdon. On peut aussi envoyer un chèque directement à l'Institut Pasteur au 25 rue du Docteur Roux. On peut taper le 3620 et dire Pasteurdon. On peut également faire un don par SMS.
Merci beaucoup Jean-François Chambon, directeur de la communication et du mécénat Pasteur Don, 4 jours pour faire acte de générosité. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à nos invités en studio. Docteur Caroline Huron, psychiatre, auteur de l'ouvrage L'enfant dyspraxique, mieux l'aider à la maison, à l'école, aux éditions Odile Jacob. Sur le site internet de l'émission, hein, vous retrouverez le lien du cartable fantastique, ce site qui propose des ressources pour faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap. Merci à vous, Hervé Glazel, neuropsychologue, fondateur du réseau d'écoles Sérène. Et lundi, dans Priorité Santé, on parlera d'amour.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.